lettres historiques concernant des événements et des services dans la campagne texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour un renvoi aux écritures ou à des détails dans les écrits. Sous ce titre, un nombre limité de lettres a été sélectionné parmi une grande variété. Elles sont placées comme auparavant dans l'ordre des dates. Les lettres qui suivent ici, concernant les services religieux à la campagne, sont nécessairement d'un caractère très décousu, comparé à celles que nous venons de quitter, et quant aux informations ou illustrations historiques, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles présentent un intérêt égal. Le lecteur impartial devra, et sans doute accordera, une grande indulgence au style d'écriture de ces lettres d'une époque si éloignée. En effet, il s'attendra à ce qu'elles portent leur caractère propre. On peut croire que leurs valeurs religieuses et les sentiments dévoués d'amour fraternel et de profonde piété qui y sont disséminés ne seront pas perdus pour ses lecteurs ni négligés sans être appréciés. NLXXXV Josiah Cole, dans son témoignage concernant l'auteur de la lettre suivante, écrit « Bien qu'il Richard Farnsworth fût auparavant un homme de grande capacité, de grand talent et connaissance, estimé parmi les hommes, surpassant même beaucoup de ses égaux, il se contenta pourtant et fut disposé, dans l'obéissance à la puissance de Dieu, à devenir un fou aux yeux du monde, et à être dépouillé et vidé de sa propre sagesse, de ses connaissances, et à subir la perte de toute réputation et faveur mondaine, ainsi. Son service fut très grand pour le Seigneur en son temps, car il était si pourvu de sagesse et d'intelligence céleste par la grâce de Dieu, et si pénétré par elle, que sa patience, sa douceur et son humilité surpassaient celles de beaucoup. » Josiah Cole, The Last Testimony, p. 5, 7. Cette lettre rend compte de quelques services très précoces dans le Yorkshire. Richard Farnsworth a deux amis 1653 chers frères, mon cher amour à vous deux, avec le reste de nos chers amis de ce côté. Je suis en bonne santé, loué soit le Seigneur pour ses miséricordes éternelles envers moi. J'ai traversé bien des choses depuis que j'étais avec vous, mais j'ai trouvé le Seigneur d'une abondance extraordinaire pour moi. J'étais à Stanley le premier jour, la puissance du Seigneur s'est beaucoup manifestée, et un très grand nombre furent touchés par le Saint-Esprit. Il y en eut un de la congrégation de Marshall, le prêtre local, qui fut atteint, ainsi qu'un des baptistes, la femme du capitaine Siddle, et beaucoup d'autres. Le lendemain, nous avons parcouru environ 16 milles jusqu'à Wakefield, et les gens nous suivaient beaucoup. Sur la place du marché, je fus poussé à parler, et les gens écoutaient attentivement, jusqu'à ce qu'un maître d'école vienne et les excite. Puis, comme nous étions dans la foule, la femme du capitaine Siddle vint, et elle fut touchée, atteinte par la puissance de la conviction du Saint-Esprit dans l'agitation, et s'écria « C'est la puissance du Seigneur ». Elle était très orgueilleuse, mais maintenant elle est humiliée. Le docteur Hodgson fut un peu ébranlé, et il est très affectueux envers nous. Nous sommes entrés dans sa maison, et les gens entrèrent, autant que pouvait se frayer un passage. Je fus beaucoup poussé à leur parler, ils s'étonnaient de l'œuvre du Seigneur. Il y avait une telle confusion parmi les gens que je fus amené à me tenir sur la table et je parlais avec beaucoup de puissance parmi eux. Ils se turent tous et furent très attentifs à m'entendre longtemps, et ils ne me dirent rien ensuite. Mais la nuit, lorsque nous sortîmes de la ville, le diable se déchaîna parmi eux, son royaume étant si atteint, au point qu'ils nous lapidèrent. Les pierres volaient aussi vite que des balles dans une bataille, mais le Seigneur éleva chacun au-dessus de cela, de sorte qu'aucune personne ne fut même blessée, et nous fûmes tous amenés à nous réjouir. Mais si la puissance du Seigneur n'avait pas été si grandement manifestée, aucun de nous n'aurait pu s'en tirer vivant. Si le Seigneur n'avait pas été de notre côté lorsque les ennemis se levèrent contre nous, nous aurions été engloutis rapidement, mais nous fûmes tous amenés à nous réjouir grandement, louange et honneur soit au Seigneur à jamais. Le matin, nous sommes allés à York. Les amis à York vont très bien, tous sauf Jan Holm, qui est quelque peu faible de corps. Les amis y sont étroitement détenus en prison, et aucun de nous ne put leur rendre visite. Il y a un Sykes à Knottinglay et deux ou trois autres en prison à cause des dîmes. Sykes est un grand homme de 300 ou 400 livres par an. Selon ce qu'on rapporte, il s'est déclaré contre les dîmes. Il est très affectionné envers nos amis, il nous a fait monter dans sa chambre. Je fus amené à beaucoup lui parler, et il le reçut très affectueusement. De là, nous sommes allés à Menton, et il y a là beaucoup de cœurs chers. Les amis de Balby étaient avec moi. Nous y fûmes deux nuits et un jour, beaucoup d'amis vinrent d'autres endroits, et la puissance du Seigneur fut beaucoup avec nous là-bas. Nous continuâmes vers Selby, et y restâmes jusqu'à 3 heures du matin, puis le matin du premier jour, nous arrivâmes à Stanley, où il y eut une grande réunion, avec beaucoup de gens de Leeds et quelques-uns de Wakefield, qui n'avaient pas été avec nous auparavant. Ainsi je vois le Seigneur se glorifier de toute façon pour sa propre louange, mais le monde est tout en feu. Je suis beaucoup menacé de mort, mais je ne crains pas ce que l'homme peut faire. J'entends dire qu'il y a des mandats lancés contre moi pour blasphème. Ah, cher cœur, soyez vaillant, le Seigneur chevauche triomphalement, que son nom soit jamais loué, tout Tous les amis ici vont bien et ont souhaité être rappelés à votre souvenir avec le reste de nos amis. Thomas Kilam et Mary Aldam et tous vous saluent dans le Seigneur et que le Dieu d'amour et de puissance soit avec vous. Richard Farnsworth et LXXXV Francis Haugill et Edward Burroughs à Margaret Fell Bristol, 1er du 9e mois 11e mot, 1654. Sœur bien-aimée, et mère de beaucoup, qui te béniront au nom du Seigneur, le premier jour après notre arrivée à Bristol, nous avons eu une réunion dans le château de plusieurs centaines de personnes, puis ensuite nous sommes sortis, pour nous éloigner de la multitude, vers la maison d'un capitaine, à environ 1 mile de la ville. Mais beaucoup nous suivirent tout le long de la ville jusqu'à cet endroit, de sorte que la maison fut remplie, et cela dura tard. Et chaque jour de la semaine, soit hors de la ville soit en ville, nous avons eu des réunions. Le dernier premier jour, nous avons eu une réunion à la maison du capitaine Bishop dans la ville, une grande maison avec de grandes pièces, mais toutes les pièces étaient trop petites pour les foules. Ainsi, l'après-midi, nous sommes allés à un endroit appelé le fort. Il y avait là environ 2 000 personnes, et beaucoup de grands hommes et de grandes dames, et tous restèrent tranquilles pour écouter, mais nos voix pouvaient à peine leur parvenir tant le nombre de personnes était grand. Pourtant tout était calme, et nous ne pouvions nous défaire d'eux, de sorte que nous fûmes contraints d'aller dans la maison d'un capitaine, dans une chambre privée pour nous cacher. Ces événements furent le sujet de conversation de la ville, et les prêtres et les magistrats entrèrent en émoi, parce qu'ils cherchaient quelque chose contre nous. Le deuxième jour de la semaine, nous sommes entrés dans la ville et sommes allés dans la maison d'un marchand. Le maire et l'échevin, ainsi que les juges de paix et les prêtres, s'assemblèrent immédiatement ensemble dans leur salle d'audience. Les magistrats envoyèrent un sergent pour nous sommer de venir au conseil, et nous y allâmes librement, accompagnés de nombreux capitaines et notables de la ville. Nous entrâmes dans une salle intérieure, et beaucoup de grands hommes, qui étaient nos amis, y entrèrent, mais on ne leur permit pas de rester. Alors nous ouvrîmes la bouche et dîmes que nous étions venus là comme eux les magistrats le souhaitaient, et ils nous demandèrent si nous savions qui ils étaient. Nous répondîmes que nous croyions être devant les magistrats ou gouvernants de la ville. Ils furent très ardents de colère parce que nous ne nous étions pas inclinés ni n'avions ôté nos chapeaux devant eux, mais nous fûmes hardis et leur dîmes que nous ne refusions pas de nous incliner ou d'ôter nos chapeaux par mépris de leur autorité, mais par scrupule de conscience. Ils demandèrent nos noms et notre pays, et nous le leur déclarâmes. Et nous leur dîmes que nous avions été à Londres environ un quart d'année. Ils nous demandèrent comment nous étions venus dans la ville, nous leur répondîmes et leur dîmes les commandements et le mouvement du Seigneur, que nous devions rendre témoignage à son nom et déclarer l'évangile qui nous avait été confié. Et l'on nous demanda si notre appel provenait de l'autorité d'une autorité secondaire ou directement de Dieu. Nous répondîmes, directement de Dieu, nous reniâmes tous les autres appels, car ils étaient charnels. Ils dirent, si vous avez le même appel direct, déclarez-le. Alors je déclarai ce que j'avais été et ce que j'étais, nous déclarâmes où nous avions vécu, et que sur l'ordre de Dieu nous les avions quittés. Nous parlâmes environ un quart d'heure, et ils écoutèrent attentivement. Ils demandèrent si nous accusions tous les ministres d'Angleterre. Nous dîmes non, il y a beaucoup de ministres de Christ en Angleterre, et nous sommes en unité avec eux, mais nous reniâmes tous les mercenaires, ministres vivant des dîmes ou de salaire, et ceux qui cherchaient à tirer profit de leur charge. Ils plaidèrent pour la rémunération, et dirent que la lumière était naturelle, et nièrent que chacun ait la lumière, et ainsi de suite, ils dirent aussi que nous déshonorions l'Évangile. Après beaucoup d'efforts et de contestations, quand ils ne purent nous prendre au piège, ils se rassemblèrent en aparté et dirent que nous tenions des réunions tumultueuses, à quoi l'un des leurs répondit qu'il y avait beaucoup de gens pieux et honnêtes sans tumulte. Quand ils ne purent rien obtenir contre nous, ils nous ordonnèrent de quitter la ville. Mais nous fûmes hardis et dîmes que nous étions des hommes libres de naissance, que nous ne connaissions aucune loi que nous ayons transgressée, et qu'ainsi nous ne serions pas à la merci de quiconque, mais que lorsque celui qui nous a appelés nous mettrait en mouvement, nous le ferions et reviendrions quand il nous y pousserait. Ainsi nous nous retirâmes, et tous les gens restèrent silencieux, et les prêtres et les magistrats furent enragés. Nous restâmes jusqu'à la nuit, puis sortîmes de la ville. Le même jour, nous fûmes poussés à revenir encore et à marcher dans les rues. Bristol a ici une grande population et une grande moisson l'attend. Il est probable que nous serons emprisonnés, mais tout est égal, et dans la volonté de Dieu nous demeurons libres de toutes choses. Nous n'avons pas encore vu John Odlan et John Cam, mais nous attendons leur arrivée. C'est une terre assoiffée, et vraiment, le son de l'Évangile qui nous a été confié a retenti dans toutes les régions environnantes. Que le Dieu vivant de vie nous préserve dans sa puissance et sa sagesse éternelle. Dans la volonté du Seigneur nous tenons ferme, et nul ne peut nous ôter notre joie. Saluez-nous tendrement George Fox, une heure avec lui serait une grande joie pour nous. Nous ne manquons de rien extérieurement, que le Seigneur te récompense et tu as ta récompense pour ton soin et ton amour envers toute l'Église de Christ. Saluez-nous dans le Seigneur tous les saints partout, et priez afin que le Dieu vivant soit honoré et que son nom soit exalté à jamais. Que le Dieu de vie et de puissance soit avec toi et te garde, toi et toute ta chère famille, dans son amour et sa puissance éternelle pour lui-même. Ton cher frère Edward Burroughs, H., tiré de la collection de W. Caton concernant cette lettre, les mémoires d'Edward Burroughs indiquent que la lettre ci-dessus a été rédigée par Francis Raugel et signée par Edward Burroughs. Il travaillait à Londres en équipe, NLXXXV. George Fox, à la date de 1654, écrit « À peu près à cette époque, le Seigneur mit en mouvement les esprits de beaucoup de ceux qu'il avait suscités et envoyés travailler dans sa vigne, afin de voyager vers le sud et de se répandre au service de l'Évangile, vers les parties orientales, méridionales et occidentales de la nation. » C'était Francis Raugel et Edward Burroughs pour Londres, John Cam et John Audeland pour Bristol, Richard Robeson et George Whitehead pour Norwich, et Thomas Holm pour le Pays de Galles. La lettre suivante est de Thomas Holm et est probablement adressée à George Fox, Cardiff, le 27 du 12e mois 1654, deuxième mot. 1655, cher frère, ceci est pour te faire savoir mon voyage et mon service au Pays de Galles. Je suis parti du Cheshire il y a environ 5 semaines, et j'ai passé 2 premiers jours dans le Radnorshire, dans les montagnes, où j'ai eu plusieurs réunions, où beaucoup des gens appelés baptistes ont été convaincus de la vérité. Il y a une grande conviction dans cette région, mais la plupart sont gallois, et certains ne peuvent pas comprendre l'anglais. Il y en a 3 qui ont la langue galloise, qui sont utiles et travaillent parmi eux, et parmi ces 3, des amis sont venus du nord du Pays de Galles. Il y en a 1 juge de paix qui est convaincu, et il est très fidèle et utile à sa place. J'ai passé 5 nuits dans sa maison et j'y ai eu une grande réunion. Il habite dans les montagnes du Montgomeryshire. Après avoir passé 2 premiers jours dans le Radnorshire, je suis passé dans le Monmouth, vers une ville appelée Abergavenny, où j'obtins une réunion ce soir-là dans l'auberge où je logeais. Et le lendemain, étant jour de marché, je fus poussé à parler au marché. J'attirai les gens dans un endroit commode et je leur parlai assez longtemps. Cela fit du bruit dans la ville et dans la campagne, car aucun ami n'y avait parlé auparavant. Le lendemain, je rencontrai ma femme et Alexander Birkett à un endroit où ils avaient une réunion. Alexander Birkett est dans le Monmouth. 2 juges de paix y sont convaincus. Le dernier premier jour, j'ai eu une réunion à 4 milles de Chopstow, et une autre le 3e jour, et aujourd'hui, étant le 4e jour, j'ai eu une réunion à 6 milles au-delà de Cardiff, au bord de la mer. Demain je me rends à une réunion générale à Newport, dans la maison d'un juge de paix. Thomas Holm d'après l'original, apparemment né LXXXV James Pownell, l'auteur de la lettre suivante, avait été instruit par la lumière dès l'âge de 14 ans. Il entendit parler de George Fox et parcourut 150 milles pour lui rendre visite en prison à Carlisle. À 16 ans, il devint ministre et fut père de plusieurs centaines, probablement de plusieurs milliers. À 19 ans, il fut emprisonné au château de Colchester, où il fut cruellement traité et mourut courageusement, le premier Quake à mourir en prison. Pour en savoir plus sur James Pownell, voir ses mémoires sur ce site. James Pownell à William Dewsbury, à la prison de Northampton. Château de Colchester, le 16 du 10e mois, 12e mot, 1655. Cher et précieux frère dans la vérité éternelle et immuable de Dieu, je te salue selon ma mesure avec affection. Tu es béni du Seigneur, cher frère, je reconnais ton soin paternel envers moi, et ta voix est un réconfort pour moi. Je suis gardé et nourri au milieu de mes ennemis, gloire soit Dieu au plus haut des cieux, qui m'a jugé digne de porter les liens de l'Évangile. Cher frère, je me réjouis d'avoir de tes nouvelles, et aussi de mon cher frère Thomas Stubb qui est avec toi, que j'aime dans le Seigneur, ainsi que le reste de tes compagnons de captivité, le Seigneur t'a établi comme un père sur eux. Je sais que ton fardeau est grand, car l'œuvre repose sur toi, mais ta joie est dans tes enfants. Vraiment, il y a une grande manifestation dans ces régions, mais il y a grand manque de ministres depuis que j'ai été mis en chaîne, mais j'ai eu une assez grande liberté parmi eux avant qu'on ne leur permette de mettre la main sur moi. Et grande fut l'œuvre du Seigneur, et puissamment elle se répandit à mon grand réconfort. Et maintenant ces liens ont été très utiles pour percer le cœur de beaucoup, et découvrir l'esprit de mes persécuteurs, et pour affermir dans la vérité ceux qui étaient convaincus. Ils se sont efforcés de rendre mes liens pénibles, mais ma force, les Philistins ne la connaissent pas. Les amis ont beaucoup de difficultés à venir jusqu'à moi, pourtant pas tous. Notre tendre sœur M. S. est ici enchaînée dans la prison de la ville. Elle y a été mise hier soir pour avoir parlé à un prêtre. Elle y est entrée 2 fois avant cela dans la même semaine, mais ils n'avaient pas le pouvoir de la retenir. Ainsi que la même puissance qui te garde me garde aussi, et que tes prières soient pour moi. Je demeure avec toi dans l'unité fraternelle, ton tendre frère, James Pownell d'après l'original. Apparemment William Dewsbury était un autre grand digne du Seigneur. Il passa plus de 20 ans en prison, mais ne vacilla jamais dans sa foi. Il mûrit en Christ et entra dans le royaume de Dieu bien avant d'entendre George Fox parler, et bien avant qu'il n'y ait d'autres amis avec qui se réunir. Sa biographie et ses lettres remarquables sont sur ce site. NLXXX Thomas Robertson à Margaret Fell Basingstoke dans le Hampshire, ce 30e jour du 10e mois 12e mot. 1655 Chère sœur, je te salue avec affection, et mon amour s'étend jusqu'à toi, jusque dans ce lieu où nous nous rencontrons et avons une douce communion et unité. La vérité éternelle de notre Dieu s'est beaucoup répandue dans ce comté, et beaucoup ont reçu notre témoignage avec grande allégresse et joie. Nos ennemis en sont irrités et troublés, ils se rassemblent pour combattre contre le Seigneur et son peuple. Nous sommes comptés comme des brebis destinées à l'abattoir, comme les rebuts de toutes choses, des fous et des insensés, et cette génération de malfaiteurs fait de nous sa proie. La condamnation est préparée pour eux, eux qui méprisent les offres et les élans de son amour, de celui même qui voudrait les rassembler comme la poule rassemble ses poussins, pourtant ils ne veulent pas venir. Qu'aurait-il pu faire de plus, lui qui a envoyé ses serviteurs, tôt et tard, les avertissant, les suppliant même d'être réconciliés avec Dieu par son cher fils? Mais aucun des princes de ce monde ne le connaît, ni ne veut lui prêter l'oreille, et ainsi il est rejeté, désavoué par les hommes, mais choisi de Dieu, et pour nous précieux, oui, la pierre angulaire principale. Chère sœur, depuis notre dernière lettre, Ambrose et moi avons été pour la plupart séparés, nous avons traversé une partie de ce comté selon ce à quoi nous étions poussés. À Hampton, il y a un capitaine et deux lieutenants, ils ont reçu la vérité avec joie, ainsi que plusieurs autres, et à Portsmouth plusieurs nous ont reconnus. Il y a ici un grand peuple du Seigneur, et il y a grand besoin d'ouvriers, priez donc afin que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers, car beaucoup entrent, et la vérité a bonne réputation en plusieurs endroits, et le Seigneur rassemblera un peuple qui n'était pas un peuple. Ambrose a été utile, il est allé dans quelques églises, et je crois que nous nous retrouverons ensemble d'ici peu, et que nous irons vers George Fox. Ainsi dans ce qui ne change jamais, je demeure ton frère dans l'unité de l'esprit, Thomas Robertson d'après l'original, apparemment Ambrose Rigg, dans le récit de sa vie, déclare que l'on me prépara un compagnon de voyage, à savoir Thomas Robertson de Westmoreland, qui fut rendu disposé à quitter sa chère épouse et ses tendres bébés, pour aller avec moi dans la moisson du Seigneur. Les lettres doctrinales d'Ambrose Rigg sont instructives, très clairement écrites et faciles à comprendre, disponibles à la lecture sur ce site. NXC Thomas Holthouse à Margaret Fell Plymouth, le 30 du 11e mois 1656, premier mot, 1657 m. F. Mon cœur est uni et joint à toi dans l'alliance éternelle de lumière et de vie, reçois mes salutations comme celles de l'un du troupeau et de la famille. Veuille te souvenir de moi, lorsque ton âme est répandue devant ton Père, afin qu'au-dessus de toute tromperie et dissimulation d'injustice je sois gardé, en cette heure de tentation et ce jour d'épreuve, maintenant que la voix se fait entendre, disant, encore une fois je secourrai, non seulement la terre, mais aussi les cieux. Où aucune arme forgée ne peut prospérer contre le chef de notre salut et prince de notre paix, nul ne peut nous arracher de la main du Père, lui qui délivre les siens de si détresse et de cette. Notre pain est assuré, et nos eaux ne manquent jamais, gloire au Seigneur à jamais. Je suis actuellement à Plymouth, et la semaine prochaine il est probable que je parte à la campagne. John Braithwaite et Alexander Park sont partis vers l'Est, et George Beaulieu, m'a-t-on dit, est en Cornouailles. Ces régions pèsent beaucoup sur moi en ce moment. Cette affaire de James Nelly a provoqué un grand tumulte dans l'esprit de beaucoup d'amis faibles. Mon œuvre est de fortifier les faibles, et de presser jusqu'au fondement de Dieu, et de ne pas admirer les personnes des hommes. Je suis ton frère et compagnon dans les tribulations, et dans le royaume et la patience de Jésus notre tête, un serviteur dans l'Église, d'après l'original Thomas Holthouse NXC George Whitehead à George Fox Chesterton, près de Cambridge, le 11 du 5e mois, 7e mot. 1659 Cher George Fox, cher frère, mon cher et tendre amour dans le Seigneur s'écoule vers la vérité efficace. Vous qui êtes honorable et tenu en estime par ceux qui craignent le Seigneur et gardent son alliance, et dans laquelle je suis vraiment sensible à votre intégrité et à votre diligence pour le Seigneur et sa semence. Il m'a été à cœur de te faire part de quelques démarches, depuis que je t'ai quitté, relatives à la vérité, principalement au sujet de Cambridge, où j'ai eu deux réunions ces deux derniers premiers jours, en plus de deux autres que nous avons eues la semaine dernière. La première réunion que j'y ai eue a été très utile le premier jour précédent, il y avait là pas mal de gens sérieux, et plusieurs furent touchés. Mais vers la fin de la première réunion, beaucoup d'étudiants grossiers entrèrent. Toutefois, ils n'eurent pas le pouvoir de nuire à qui que ce soit, à ce que je sache. Cependant, après que nous fûmes sortis de la salle, ils voulaient à peine sortir, mais avaient le désir de semer le désordre. À ce moment-là, le maire de la ville entra rapidement dans notre salle de réunion, comme un lion parmi ses étudiants aux allures de loup, lesquels s'attendaient à ce qu'ils viennent pour interrompre notre réunion. Mais au contraire, il chassa les étudiants et les menaça d'emprisonnement pour leur grossièreté, puis le maire entra au collège, qui est juste en face de notre lieu de réunion, et il se plaint des étudiants auprès du recteur ou des proctors du collège, et il dit au recteur que, s'il ne prenait pas des mesures pour mieux les tenir en ordre, il me l'a dit lui-même, ainsi qu'à d'autres car j'étais avec lui et John Crook, il le ferait lui-même ou les enverrait en prison. Ainsi il se tint au-dessus d'eux et dit qu'il devait protéger nos réunions et leurs réunions. C'est pourquoi les étudiants et les maîtres sont très troublés que le maire propose de protéger nos réunions, et beaucoup d'entre eux éprouvent une grande rancune contre lui. Hier étant le dernier premier jour, nous avons eu, je pense, une réunion plus utile à Cambridge que toutes celles que nous y avons eues jusqu'ici, bien que vers la fin, les étudiants aient été grossiers, aient fait du bruit et aient essayé de me tirer vers le bas. L'un se jeta sur moi pour le faire, mais une puissance secrète les tenait qu'ils ne connaissaient pas, et beaucoup de gens sérieux furent frappés de voir leur saleté lorsque je leur fis voir quels hommes étaient ces étudiants qui devaient devenir ministres. Il y a ici beaucoup à foudroyer dans ce Cambridge, mais il faut exercer envers eux beaucoup de patience et de sagesse. J'ai l'intention d'y être le prochain premier jour. Si le coup suivi de l'entrée n'est pas suivi maintenant, ils prendront l'avantage, car la vérité a déjà acquis un nom dans la ville. La puissance du Seigneur œuvre sur eux, bien qu'ils ne le sachent pas, et c'est seulement la puissance qui doit les vaincre. Depuis que je suis parti de là, j'ai eu un précieux service sur la lisière de l'Essex et du Hertfordshire. Je suppose que tu as déjà entendu parler de mon service avec le prêtre Harry Clan, dans l'église, le premier jour suivant celui où je t'ai quitté. Beaucoup de ses auditeurs furent profondément touchés et vaincus par la vérité ce jour-là. Pendant que le prêtre prêchait, j'ai noté par écrit une partie de sa doctrine. Après qu'il eut terminé sa prédication, j'en ai dévoilé une partie devant ses auditeurs, dont la plupart étaient calmes et disposés à entendre, sauf deux ou trois personnes professant la religion et la femme du prêtre. John Crook était à Cambridge la semaine dernière, et sa présence fut utile. Les étudiants et les prêtres sont extrêmement tourmentés et écrasés lorsque de tels amis viennent, pour dénoncer leur tromperie, eux qui se considèrent comme très savants. G. Fox, sans doute George Fox, le jeune était ici la semaine dernière, a tenu une réunion à Cambridge et est parti vers l'Essex. William Allen était avec moi à Cambridge hier. Il n'a eu que la permission du geôlier de Colchester de venir pour un peu de temps dans le Cambridgeshire et les environs. Il y a de grands remuements vers la vérité en beaucoup d'endroits là-bas et ailleurs, vraiment la moisson est grande et les ouvriers ne sont que peu nombreux. Je fus libre de te faire connaître ces choses dans un amour sincère. Ton cher frère dans l'œuvre du Seigneur, George Whitehead, mon cher amour va à Edward Burroughs et Gérard Robert, et au reste des frères là-bas, Londres. Je pense aujourd'hui passer dans le Huntingdonshire, mais j'y ai l'intention d'être à Cambridge le prochain premier jour, si le Seigneur le veut. D'après l'original, adressé à George Fox à Londres, Enixie Ambrose Rigg à Margaret Felbin Scorab dans le Surrey, 9e mois, 11e mot. 1659 Chère sœur, tu es souvent dans mon souvenir, dans mon labeur et mon travail dans la vigne du Seigneur, laquelle est devenue douce et agréable à parcourir, à la louange de Dieu. J'ai reçu tes lignes en le Hampshire, lorsque j'étais dans une grande faiblesse de corps, et j'en ai été beaucoup fortifié et rafraîchi, et vraiment, chère sœur, j'espère dans le Seigneur que, par sa force, nous serons quittes de tout. Mais nos épreuves sont nombreuses, surtout parmi de faux frères, et quant aux détails, pour le moment, je ne les mettrai pas par écrit. Oh, chère sœur, si ce n'était la puissance vivante de Dieu, elle ne pourrait jamais supporter tous les coups qui s'abattent contre elle, mais en tout cela nous ne défaillons pas, et pouvons vraiment dire, notre force est renouvelée chaque matin, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il n'y a qu'un seul frère fidèle avec moi sur toutes ces côtes du sud, de ce côté-ci de Londres. Néanmoins, le Seigneur nous rend capables d'arroser beaucoup de tendres plantes. La vérité prospère beaucoup et s'accroît chaque jour ici à la louange de Dieu. Nous consentirons à dépenser et à être dépensés pour la précieuse vérité, qui est pour moi plus que toute la gloire du monde. J'ai été très faible de corps dernièrement, mais le Seigneur m'a relevé de nouveau pour travailler dans sa moisson. Inexprimable par écrit est mon amour pour toi, à cause de la vérité et de ton soin sur le troupeau de Dieu, pour cela Dieu te récompensera. Ainsi, avec mon cher amour pour tous tes chers enfants et serviteurs dans la vérité, je demeure. Ton cher frère dans le labeur de l'Évangile, Ambrose Rigg d'après l'original, Enixie Francis Raug et la Margaret Felgrerig, le 29 du 7e mois, 9e mot. 1661, chère Margaret, en celui qui est devenu pour nous un lieu de larges fleuves et de ruisseaux, et la portion de notre coupe et le lot de notre héritage, je te salue de tout mon cœur. Les jours d'autrefois ne sont pas oubliés de moi, ni les années passées, quand nous fûmes tous amenés à boire d'une même coupe, et que nous fûmes baptisés dans la mort et les souffrances de Christ, et amenés à la boire volontairement, sachant que c'était notre portion assignée par le Seigneur, que nous ne pouvions éviter, mais dont nous devions boire. Et bien que cela nous fût pénible et douloureux lorsque notre force était faible, Dieu, dans son amour et sa miséricorde infinie, nous fortifia pour porter, souffrir, et renier ce qui nous cachait l'immortalité et la vie. Et il nous soutint dans ses bras, et nous fit endurer avec patience les souffrances et la mort, afin que nous obtenions la résurrection des morts, ce qui fut en vérité un temps béni, bien que, pour un moment, cela parût douloureux. Mais maintenant, ayant obtenu la résurrection des morts, étant baptisés dans la résurrection et dans la vie, une bénédiction plus grande est connue, oui des bénédictions spirituelles, que Dieu nous a données pour en jouir dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que, comme nous avons souffert les uns pour les autres et les uns avec les autres, ainsi nous soyons amenés à nous réjouir les uns avec les autres et les uns pour les autres, et en lui seul. En qui sont toutes nos sources nouvelles, et de qui jaillissent notre joie, notre allégresse et notre consolation. Il a ouvert les sources du grand abîme, et a fait jaillir la vie, par laquelle ses petits sont rafraîchis, les jeunes hommes fortifiés, et les anciens et honorables confirmés et affermis. Saint et révérend soit son nom à jamais, lui qui élève sa montagne glorieuse au-dessus du sommet de toute la terre, et fait de Jérusalem la louange, la gloire et l'admiration de toute la terre. Et laisse-moi te dire, je ne suis pas plus là que le premier jour où la faucille fut mise dans la moisson, lorsque nous sortîmes en semant la semence pleurant et en larmes, mais voyant les gerbes rapportées à la maison, et les charretées pleines dans la grange, et les prises abondantes prises dans le filet, cela m'a fait regarder au-delà du découragement, béni soit le Seigneur. Je me réjouis que tu restes si longtemps dans cette ville Londres, où nous avons eu main fardeau et main jour accablant, mais le fruit porté pour Dieu, abondamment, compense tout et me fait oublier la peine. Je suis allé vers le nord, dans le Northumberland, le Bishopric et sur la mer de Lay, puis de retour à York. Vraiment, le jardin, pour l'essentiel, est très agréable et exhale un bon parfum, maintenant que le vent du sud souffle sur lui. Adieu dans la Sainte Alliance de vie. Francis Raugill, d'après l'original, Enixive Margaret Fell à son gendre John Roose et à son épouse Château de Lancaster, premier du 8e mois 10e mot. 1664 Comme je te l'ai souvent dit, abandonne-toi à être contrecarré, c'est là le moyen de plaire au Seigneur, et de le suivre dans sa propre volonté et sa propre voie, dont la voie est la meilleure. Que rien n'entre dans ton esprit concernant quoi que ce soit à mon sujet, car je suis très satisfaite dans l'œuvre du Seigneur. Je sais que ton soin et ta tendresse n'ont pas fait défaut envers les amis, ainsi soyez tous satisfaits dans la volonté du Seigneur Dieu. J'espère dans le Seigneur que vous êtes tous ensemble, avant que ceci vous parvienne. Soyez tous satisfaits et contents de la volonté du Seigneur, et que ni murmure ni mécontentement n'entrent dans vos esprits, et que la tristesse ne remplisse pas vos cœurs, car nous avons tous sujet de nous réjouir dans le Seigneur toujours, et moi plus que tous. Le colonel Kirby fait renouveler nos liens, et les resserre de plus en plus, et ils enferment George Fox sous prétexte d'un ordre qui devrait venir de Londres. Fais envoyer cette lettre ci-jointe de George Fox à Gilbert Lattay, afin que j'aie. Whitehead et eux puissent en tirer ce qu'ils jugeront convenable. Margaret Fell, tels sont les sentiments de la mère d'une grande famille, séparée de son foyer par l'emprisonnement, à cause de ses témoignages religieux, elle fut inculpée pour avoir refusé de prêter le serment d'allégeance, et on lui dit que si elle ne tenait pas de réunion dans sa maison, elle serait remise en liberté. Mais elle répondit au juge, « Je préfère choisir une prison pour obéir à Dieu, plutôt que ma liberté pour obéir aux hommes contre ma conscience. » Elle demeura prisonnière 4 ans. Tirée des œuvres de M. Fell, elle passa au total 10 ans en prison. George Fox lui-même passa 6 ans et demi, ce qui le conduisit à commenter qu'il n'y avait jamais eu en Angleterre de plus grande injustice que l'emprisonnement de Margaret et la privation de ses biens, particulièrement si l'on considère que sa condition approchait celle de la petite noblesse. Il est également probable que les 10 années d'emprisonnement de Margaret Fox aient été une durée aussi longue que celle de toute autre femme. William Dewsbury et un autre Quaker passèrent chacun plus de 20 ans en prison. No. XV Josiah Coal à George Fox le Darkus à Launceston, 12 jours du 11e mois, 1664 premier mot, 1665. Cher George, je te fais savoir par la présente que je vais bien à tous égards, dans l'œuvre et le service du Seigneur, ce qui prospère, et la vérité gagne du terrain chaque jour, et fleurit dans ces contrées, beaucoup la désirent et s'y attachent. Dans ce comté de Cornouailles, j'ai eu un beau service pour le Seigneur, de même tout au long de la route depuis Londres, en passant par Portsmouth, Southampton et Weymouth, puis plus au sud, le long de la mer. Je ne sais pas avoir laissé une seule réunion sans la visiter entre Londres et Land's End, mais j'ai eu chaque jour une ou deux réunions pendant plusieurs semaines d'affilée, pour le rafraîchissement des amis, et j'ai reçu jusqu'ici beaucoup de consolation et de satisfaction dans mon voyage. J'allais quitter ce comté, étant revenu jusqu'à Launceston, où j'ai eu une petite assemblée le second jour dernier. À ce moment-là, le maire de la ville, avec ses officiers et d'autres, entra et nous fit prisonniers, et cette nuit-là, il nous fit conduire à la prison de la ville, appelée le Darkhus. Le lendemain, ils me firent appeler seul à l'hôtel de ville, devant le maire et le reste des magistrats, et m'interrogèrent sur mon lieu de résidence et sur mon affaire ici, à quoi je leur répondis en conséquence, et leur dis que mon affaire ici était de rendre visite à mes amis. Ils dirent que j'étais une personne très dangereuse et suspecte, et firent fouiller mes poches en audience publique, et y trouvèrent un papier écrit de ta main, au ministre et au prophète, au sujet duquel ils firent grand tapage, me demandant si je te connaissais, etc. Après plus d'une heure d'entretien, ils me mirent de côté et firent appeler Benjamin Lawrence, qui voyage avec moi pour compagnie, et l'interrogèrent de même, puis ils firent appeler le reste des amis, et les écrouèrent pour avoir refusé de payer une amende de 40 shillings chacun, jusqu'à ce qu'ils soient délivrés par les voies régulières de la loi. Ils dirent à Benjamin et à moi qu'ils procédaient contre nous en vertu de la loi faite contre les Quakers, et nous infligèrent 5 livres chacun d'amende pour avoir été à la réunion. Ils avaient l'intention de prendre nos chevaux pour l'amende et de nous renvoyer avec un laissez-passer. Ce que les amis ayant compris, ils firent sortir nos chevaux de la ville pendant que j'étais devant les magistrats. Lorsqu'ils virent que nos chevaux avaient disparu, leur fureur s'enflamma tellement contre Benjamin et moi qu'ils nous renvoyèrent seuls au Darkhus sans aucun mandat légal, et donnèrent l'ordre strict que personne ne vienne vers nous, sauf pour apporter notre nourriture, et que le geôlier entende ce que nous disons, et veille à ce que nous n'écrivions pas bien que le moyen en soit trouvé à leur insu. La prison, où l'on nous a consignés, ne nous procure pas le bénéfice d'une cheminée, ni d'autres commodités nécessaires. Mais la puissance du Seigneur Dieu Tout-Puissant est au-dessus de tout cela et par-dessus tout, en elle, nous sommes bien contents, et nous sommes en paix au repos. Cette prison m'est comme un palais de plaisir, car bien que nous soyons comme n'ayant rien, et pourtant possédant toute chose par celui qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, par le sang duquel nous sommes rachetés pour servir le Seigneur dans la nouvelle alliance de vie, gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant à jamais. Et maintenant, cher Georges, ce qu'il pourra leur être permis de faire encore contre nous, je ne le sais pas encore, bien que je sache ceci, la rage de certains est très grande, et ils sont résolus à faire le mal. Ils nous parlent du serment, mais s'ils peuvent retrouver nos chevaux, je suppose qu'ils les prendront et nous feront sortir de la ville. Sinon, je ne puis dire, et je ne crois pas qu'ils soient encore décidés ce qu'ils feront de nous. Toutefois, bien des choses s'agitent dans l'esprit de la plupart des gens, contre leur manière cruelle et inhumaine de nous traiter, en nous enfermant si étroitement dans un lieu si froid et enfumé, à une telle saison de l'année, premier mois selon mon calcul, car ils ne nous permettent pas d'être dans une chambre où il y a une cheminée, bien qu'elle ne soit pas autrement utilisée, et qu'elle soit inoccupée au-dessus de nos têtes. J'entends dire qu'un des magistrats de la ville a proposé au maire de se porter garant corps pour nous, afin que nous puissions être dans une chambre de la ville convenable pour des hommes, mais cela n'a pas été accepté, cependant nous sommes contents, et bien au-dessus de cela. Je désire que tu présentes de ma part, dans le Seigneur, mes salutations affectueuses à Margaret Fell et au reste de tes compagnons de captivité, et dans l'amour et la paix de Dieu, je demeure ton serviteur, Josiah Coal d'après l'original, adressé à Lancasteno. XQV ont dit que l'ami par lequel cette lettre a été écrite était juge de paix. Dans une lettre d'Alexander Pock, datée de Reading, le 6 jour du 5e mois 1655, il parle du capitaine Curtis de ce lieu, et dit « Lui et sa femme nous sont très chers et précieux, ils ont autrefois vécu très haut et avec grande richesse d'habillement, mais ils sont dépouillés de tout, il a arraché ses boutons d'or, et sa femme a ôté tous ses bijoux et ses riches atours. Elle nous était très chère, et disait souvent que tout ce qu'ils avaient était à nous. Ainsi le Seigneur notre Dieu s'élève, et abaisse la hauteur de l'homme, et met son honneur dans la poussière. » Thomas Curtis à George Fox Reading, 15 jours du 11e mois, 1664 premier mot. 1665 Cher George, avec un amour vrai et sans feinte, je te salue de tout cœur, ton souvenir nous est cher et précieux à nous tous, et dans nos souffrances, quelques lignes de toi ont rendu nos cœurs tout joyeux. Vraiment, la rage des méchants n'est pas petite en ce lieu, Pourtant le Seigneur nous a tellement conduits par son bras que nous foulons tout cela aux pieds, et la vérité est au-dessus des têtes de cette génération impie. Nous étions en prison environ 50 et quelques prisonniers, et voici qu'à ces assises nous sommes conduits au jugement, environ 50 pour le serment d'allégeance, et pourtant le jury nous a quittés. Mais ils en ont repris environ 14 d'entre nous, et nous ont de nouveau présenté le serment, et nous ont renvoyés en prison. Nous en avions 4 autres qui, comme ils disaient, en étaient à leur troisième offense, et eux aussi ont été acquittés. Ainsi, bien que les juges ainsi nommés fussent méchants, le pays a remis les amis en liberté, et ces mauvais hommes les ont renvoyés en prison. Nous sommes 25 en tout encore détenus. Aujourd'hui notre réunion a été tranquille, contrairement à toutes nos attentes. Pendant que nous étions tous en prison, nos petits-enfants ont continué la réunion, malgré ce que ce méchant juge de paix armoré a fait lorsqu'il est venu et les a trouvés là. Avec un bâton qu'il avait, muni d'une pointe, il les tirait hors de la réunion et les frappait dans le dos, au point que certains en avaient le visage tout noir. Je crois que son degré de méchanceté ne peut être égalé par aucun autre juge de paix en Angleterre. Et maintenant nous sommes gardés si étroitement que personne ne peut me parler qu'en présence de nos gardiens, mais nous sommes au-dessus de tout, dans une paix et une unité véritable. Le porteur, mon homme, peut te donner un large récit des choses. George Lambol et sa femme, et mon âne sa femme, et Joseph et Benjamin, sont tous prisonniers avec moi. Leur cher amour va vers toi, dans la communion qui est éternelle, ainsi que vers Margaret Fell et le reste des prisonniers au château de Lancaster, et le mien aussi, moi qui suis. Thomas Curtino. Excuse George Fox à Thomas Curti, et aux amis dans la prison de Reading. La lettre suivante ne porte pas de date, mais elle a très probablement été écrite à cette période de souffrance très sévère des amis à Reading. La lettre entière, qui est en la possession de l'éditeur, est écrite de bout en bout de la main de George Fox. Deux autres lettres originales de George Fox Oxdy, amis pendant leur emprisonnement, ont aussi été vues par l'éditeur. À tous les prisonniers du Seigneur, pour la vérité et pour Christ. Soyez vaillants pour la vérité sur la terre, afin que vous triomphiez en gloire sur les esprits du monde, dans la semence éternelle, qui règne et régnera, lorsque ce qui fait souffrir aura disparu, devant quoi cela était. C'est pourquoi confiez-vous au nom du Seigneur, qui a soutenu et relevé vos têtes au-dessus de toutes les tempêtes, des vagues orgueilleuses et des flots, et qui a été votre rocher de vie. Asseyez-vous donc à l'ombre du Tout-Puissant, qui vous abrite de toutes les ardeurs et de toutes les tempêtes, vous réjouissant dans toutes vos souffrances, afin que vous sortiez comme de l'or 7 fois éprouvé dans le feu. Ne regardez pas au temps, et ne pensez pas que vos souffrances soient longues, mais regardez à celui qui tient tout le temps en sa main. Tout afin d'être ses héritiers et de le posséder, et alors d'avoir la vie éternelle, et ainsi d'être le lot de Dieu. Qu'il vous possède et que vous le possédiez, lui qui est d'éternité en éternité, béni à jamais, que sa présence soit avec vous tous. Amen. Je n'ajoute rien, sinon mon amour pour vous tous dans la vie qui ne change pas. Souvenez-vous de mon amour pour tous comme si je les nommais. George Fox. Lisez ceci parmi les prisonniers. Adressé au frère Thomas Curti, prisonnier à Reading. No XQI Francis Raug et la Margaret Fell Appleby, 5e jour de la semaine, 1666 M. F. Cher et bien-aimé, que j'aime dans la vérité, et que j'ai toujours ainsi aimé depuis que je l'ai connu, étant très heureux d'avoir de tes nouvelles, et de t'entendre, et de savoir que tu te portes bien. J'ai reçu ta dernière lettre, depuis les assises de Lancaster, ce qui m'a été agréable, sans oublier les jours anciens, où nous étions consolés, rafraîchis et réjouis ensemble dans le Seigneur, lorsque nous étions réunis en personne, et étant maintenant séparés au dehors, nous savons en quoi consiste notre union avec Dieu, et avec tous les saints dans la lumière. Je me réjouis en vérité souvent dans mon cœur que Dieu ait prolongé mes jours si longtemps, pour voir se manifester tant de puissance et de gloire de Dieu en notre âge. Je m'y suis librement abandonné, et je bénis le Seigneur, j'en suis très content, je suis dans une joie et une paix parfaite. Je bénis le Seigneur, qui a été notre refuge et notre préservation jusqu'à présent. Chère âme, j'ai pensé t'écrire lorsque l'assise d'ici aurait été terminée. Mes tant d'amis étaient ici, et j'étais, pour ainsi dire, encombré par des multitudes de gens, avec peu de place, et ensuite, la nouvelle de la désolation de Londres, arrivée aussitôt après, m'en empêcha. En vérité, les gens ont été et sont si fous et si grossiers ici, que je peux à peine recevoir une lettre ou en écrire une. J'ai un geôlier si mauvais qu'il est très souvent cause de la détention de tout étranger, et de leur arrestation pour son profit, au point que je suis parfois plus troublé pour que pour moi-même. Depuis quelque temps, ils ne laissent personne me parler, même s'ils viennent seulement du Cumberland, mais je dois supporter tout cela, et bien davantage, jusqu'à ce que Dieu en ordonne autrement. Je me réjouis de tout cœur de la liberté de George Fox, bien que depuis 2 ans je ne lui ai pas écrit une ligne, de peur de le troubler dans son emprisonnement difficile. Je suis convaincu du juste jugement du Seigneur sur cette grande ville rebelle, l'incendie de Londres, et en vérité j'ai attendu de grands jugements depuis quelques années, et un malheur est venu, cette grande peste, mais je craignais qu'il ne l'ait oubliée, comme si elle n'avait pas eu lieu. La dureté de cœur et la méchanceté continuaient d'abonder, et voici que Dieu avait décrété une désolation totale. Oh, que tous ceux qui demeurent encore aillent interroger Dieu sur la cause, y réfléchissent et se repentent, et cessent de lutter contre le Seigneur, de peur que sa main ne s'étende de plus en plus en jugement. Pourtant je ne puis que me réjouir que tant de personnes n'aient pas été détruites dans un si triste désastre. Quant aux pauvres amis, ils y ont subi bien des grands maux et des épreuves, et ont été emprisonnés et honteusement maltraités par la plupart, et par ceux au pouvoir, et ainsi, après de nombreux avertissements, signes et prophéties, Dieu s'en vengea, afin que toute chair se courbe devant lui et craigne son nom puissant. Et le Dieu qui a préservé la vie de ceux qui croient les soutiendra, je le crois, et les préservera pour sa gloire. Je ne suis pas plus là des liens qu'au premier jour où je suis entré. Pourtant, si telle est la volonté de Dieu, je désire la liberté afin de revoir les visages des chers amis, et d'être consolé par eux, afin que nous nous réjouissions ensemble en le Seigneur. Je n'avais qu'un compagnon, et il a quitté son corps cette dernière semaine, un homme de bien, il a beaucoup souffert, il était emprisonné pour les dîmes, et il a fait une douce fin. Ma femme et mes enfants vont bien, à ce qu'on me dit, béni soit Dieu. Souviens-toi affectueusement de moi auprès de tous tes enfants, de tes compagnons de captivité et des amis d'alentour, et fais-moi savoir si tu sais où se trouve maintenant George Fox. Rien de plus, sinon que je suis ton ami et frère véritablement aimant, dans la communion de l'Évangile de Christ, Francis Raugill. D'après l'original, Francis Raugill mourut environ 2 ans après la date de cette lettre dans la prison d'Appleby, après près de 5 années d'emprisonnement. Son emprisonnement cruel et sa mort en prison figurent dans ses mémoires sur son site. Francis était un grand prophète du Seigneur, avec des paroles merveilleuses et inspirantes de Dieu qu'il nous a transmises. Extrait de ses mémoires, ci-dessous se trouve l'une des plus grandes prophéties que j'ai jamais lues. Une époque de grande persécution à Londres. Francis Raugill écrivit depuis sa profonde expérience ravie au ciel. Les mouvements de mon cœur ont été nombreux, profonds et lourds depuis quelques mois, semaines et jours, au sujet de ce peuple que le Seigneur a suscité pour rendre témoignage à son nom, en ce jour de sa puissance. Et l'intercession a souvent été faite pour eux auprès du Seigneur, avec une attente patiente pour connaître sa pensée à leur sujet pour le temps à venir, ce dont souvent j'ai reçu satisfaction pour moi-même. Et tandis que j'attendais, hors de toute chose visible, et tout à fait hors du monde en mon esprit, et mon cœur uniquement sur le Dieu vivant, le Seigneur ouvrit les sources du grand abîme, et inonda tout mon cœur de lumière et d'amour. Et mes yeux furent comme une fontaine à cause des larmes de joie, à cause de son héritage, dont il me fit voir et me dit dans une puissance pleine, fraîche et vivante, et dans un témoignage saint et complet, de sorte que mon cœur y fut ravi d'une joie ineffable, et j'étais hors du corps avec Dieu dans son paradis céleste. Enfin, la vie se referma avec mon intelligence, et mon esprit l'écouta, et le Dieu éternel dit, « Cacherai-je quoi que ce soit à ceux qui cherchent ma face dans la justice ? Non, je le manifesterai à ceux qui me craignent, je parlerai, et toi écoute, et publie-le parmi tout mon peuple, afin qu'il soit consolé, et toi satisfait. » Et ainsi parla le Dieu vivant du ciel et de la terre, le 28 au jour du 3e mois, 1662. Le soleil quittera sa brillante clarté, et cessera de donner de la lumière au monde, et la lune sera entièrement ténèbre, et ne donnera aucune lumière à la nuit. Les étoiles cesseront de connaître leur office ou leur place. Mon alliance avec le jour, la nuit, les temps et les saisons prendra fin plus tôt que l'alliance que j'ai faite avec ce peuple, dans laquelle ils sont entrés avec moi, ne prendra fin ou ne sera rompue. Oui, quand bien même les puissances des ténèbres et de l'enfer s'uniraient contre eux, et que les mâchoires de la mort ouvriraient leurs bouches, je les délivrerai pourtant, et les conduirai à travers tout. Je confondrai leurs ennemis comme je l'ai fait en Jacob, et je les disperserai comme je l'ai fait en Israël aux jours anciens. Je saisirai leurs ennemis, je les jetterai de ci, de là, comme des pierres lancées avec une fronde, et le mémorial de cette nation, les premiers Quakers, qui m'est saint, ne sera jamais déraciné, mais vivra à travers les âges, comme un nuage de témoins, dans les générations à venir. Je les ai conduits à l'enfantement, oui, je les ai fait naître, je les ai emmaillotés, et ils sont miens. Je les nourrirai et les porterai comme sur des ailes d'aigle, et bien que des nuages s'amassent contre eux, je me frayerai mon chemin à travers eux, bien que les ténèbres s'amoncellent en tas, et que les tempêtes s'engendrent, je les disperserai comme par un vent d'est, et les nations sauront qu'ils sont mon héritage, et elles sauront que je suis le Dieu vivant, qui plaidera leur cause contre tous ceux qui s'élèvent en opposition contre eux. Ces paroles sont saintes, fidèles, éternelles, bonnes et vraies. Bénissons ceux qui entendent et croient jusqu'à la fin, et à cause d'elles, je n'eus plus de force en moi pendant un moment, mais enfin mon cœur fut rempli de joie, comme lorsque l'arche de Dieu fut amenée de la maison d'Obdédom, quand David dansa devant elle et qu'Israël poussa des cris de joie. Francis Raugill. XX Thomas Soltraus à Margaret Fell Somersetshire, 21 e jour du premier mois, troisième mot. 1668 La proclamation a été lue samedi dernier à Raycross, contre les papistes et les non-conformistes, et nous préparons nos esprits à la prison dans ces contrées, car les juges de paix sont en consultation à ce sujet, et bien que les papistes soient nommés, il est probable que nous porterons la plus grande part des souffrances, si cela produit quelque effet. Nous sommes résolus à nous réunir, prêcher et prier, en public et en privé, en saison et hors saison, en ville, bourg ou campagne, comme si cela n'avait jamais été, sachant bien que la même puissance par laquelle nous avons été préservés et délivrés de la tanière est avec nous, et sera avec nous jusqu'à la fin, si nous demeurons fidèles. Thomas Soltraus No. C'est George Fox aux amités. S. Swarthmore, 2 jours du 8e mois, 10e mot. 1676 Chers amis, à qui va mon amour, ainsi qu'à tous les fidèles qui s'enquièrent de moi. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous donne, dans sa puissance, la domination, afin qu'en elle vous vous efforciez tous d'être d'un même esprit, d'un même cœur et d'une même âme, gardant l'unité dans l'unique esprit, qui est le lien de la paix, et buvant tous dans l'unique esprit, par lequel vous êtes circoncis et baptisés en un seul corps, sous un seul chef céleste et spirituel. Et maintenant, amis, plusieurs navires partent pour la Jamaïque et New York, il serait bon d'y envoyer, ou de veiller à ce qu'on y envoie des livres ou des épîtres. Et il serait bon que certains amis s'offrent aux évêques et aux prêtres ou aux magistrats pour leurs frères qui sont en prison, afin de rester en prison un trimestre, ou un mois, ou plus ou moins, afin que ceux-ci aient pendant ce temps leur liberté, de sorte que nos frères ne périssent pas en prison, et que le sang des innocents ne retombe pas sur eux leurs persécuteurs, et que les âmes des Quakers ne crient pas vengeance contre eux, et n'attirent ainsi la destruction sur eux et sur d'autres. Je laisserai donc cela à l'Esprit de Dieu en tous les amis, dans chaque pays, et vous pourrez, en allant et venant, en informer les amis. Il serait bon de préparer un relevé des souffrances des amis, en vue de la session du prochain Parlement, et au sujet des serments, et du fait que le oui et le non des amis soient acceptés, mais d'en rassembler un compte rendu plus complet que celui qu'ils avaient pour le dernier Parlement, car il était très court. Ainsi, cher William, tu peux lire ceci à la réunion du matin du second jour, et avec mon amour à tous les amis qui s'enquièrent de moi. Gardez vos demeures dans la semence de vie et de salut, elle survivra à tout ce qui est hors d'elle. Ainsi, avec amour, George Fox d'après l'original No. Si Alexandre Pock à George Fox Londres, 27 jours du 9e mois, 11e mot. 1676 Cher George Fox, mon amour tendre et précieux va vers toi, cet amour même que le Dieu de ma vie a répandu dans mon cœur à l'aube du jour de l'Évangile, lequel est vivant et frais en moi en ce temps, en lui je te salue très affectueusement, ainsi que cher M, F et ses filles, et tout le reste de ta maison qui aime et vive dans la vérité. Mon amour en Christ s'étend à chaque personne, et à tous les amis de la vérité là-bas et dans cette région. Cher Georges, ayant été longtemps hors de cette ville, j'ai à cœur de te rendre un compte particulier de nos travaux et voyages, depuis notre départ jusqu'à notre retour en cette ville. Le 30 jour du 6e mois 1676, mon compagnon George Whitehead et moi avons quitté cette ville et sommes allés à Hammersmith, où nous eûmes une réunion très précieuse, plusieurs amis de Londres nous y accompagnèrent. Après la réunion, nous sommes allés à Kingston en chemin, nous sommes passés chez Robert Dring, qui accueillit notre visite très aimablement. Je me renseignais sur les lettres et papiers des amis, écrits au commencement de la propagation de la vérité, mais je n'en trouvais aucun, car ils avaient été détruits dans l'incendie de Londres, comme Darcy le dit. Ils s'enquéraient de toi avec beaucoup d'amour. Le 31, nous eûmes une grande réunion ouverte à Kingston, et la présence de Dieu se manifesta avec nous. Le premier jour du 7e mois, étant le 6e jour de la semaine, accompagné de Gérard Robert, nous allâmes à cheval à Guildford, où se tenait une réunion mensuelle d'hommes et de femmes. Ayant eu avis de notre venue, elle fut plus grande qu'à l'ordinaire, et nous y eûmes une bonne occasion et un bon service pour Dieu parmi eux. Après la réunion, nous sommes allés chez Stephen Smith, et y sommes restés le 7e jour, visitant quelques amis. Le premier jour, nous parcourûmes environ 10 000, et arrivâmes à une réunion mensuelle à Froil dans le Hampshire, qui était grande, la salle ne pouvait contenir les gens, de sorte que nous nous réunîmes dans un verger, et la sainte et bénie présence de Dieu nous accompagna. Le second jour, nous eûmes une bonne réunion dans la nouvelle maison de réunion des amis à Alton. Le troisième jour, nous parcourûmes environ 15 000, et arrivâmes à Swarthmore, où se tenait une réunion trimestrielle. Les amis étaient en bon ordre, et conduisaient leurs affaires dans l'amour et l'unité. Nous eûmes une bonne occasion parmi eux à notre satisfaction. Des amis y étaient venus de la plupart des réunions du comté, et grâce à eux, nous eûmes l'occasion d'envoyer à Ringwood et à Poole. Cette nuit-là, nous logeâmes chez George Hermbry à Southampton, et le quatrième jour, nous eûmes une réunion solide et pesante. Ambrose Rigg était avec nous. Tôt le matin du cinquième jour, nous quittâmes Southampton, parcourûmes 16 000 et arrivâmes à Ringwood, où nous eûmes une bonne réunion. Plusieurs baptistes et d'autres entrèrent, et la vérité les atteignit. Nous eûmes aussi une réunion le soir. Le sixième jour, nous arrivâmes à Poule, et eûmes une réunion très ouverte et vivifiante. Le septième jour, nous parcourûmes environ 22 milles et arrivâmes à Weymouth, où le premier jour, nous eûmes une grande réunion. Les amis avertis vinrent de divers endroits, et la puissance et la présence de Dieu étaient avec nous. Le second jour aussi, nous eûmes une réunion là. Le troisième jour, nous parcourûmes environ 14 milles et arrivâmes à Bridport, où nous eûmes une réunion dans le lieu loué par les amis, où il n'y avait jamais eu de réunion auparavant. Beaucoup de gens vinrent, tant des personnes religieuses que des profanes, et remplirent la salle. Et après que l'un de nous commença à déclarer, ils furent tous très calmes et attentifs, et la puissance de Dieu lia et enchaîna les esprits légers et sauvages, et nous nous séparâmes en paix. Nous avons depuis entendu dire que beaucoup firent un très bon rapport de la réunion. Les amis furent heureux de l'occasion. Après la réunion, nous parcourûmes 16 milles. Nous fûmes 2 heures dans la nuit et arrivâmes à Membry, où nous trouvâmes la vieille Jean-Paul Exien, qui était alitée depuis 10 semaines à cause d'une chute de cheval. Pauvre femme, elle était dans quelque détresse d'esprit, étant prisonnière et ne sachant comment gagner exété. Mais depuis, elle a rejoint sa chambre de prison, ce qui a grandement satisfait son esprit, bien qu'elle demeure boiteuse. Elle était manifestement en permission de la prison d'exété pour s'occuper de quelque affaire, et elle fit une chute de cheval. Les Quakers étaient particulièrement jugés dignes de confiance pour revenir lorsqu'on leur accordait une permission. Le quatrième jour, nous eûmes une bonne réunion à la maison de réunion des amis près de Membry. Le cinquième jour, nous parcourûmes environ 22 milles jusqu'à Topsham, et à la réunion hebdomadaire des amis, nous eûmes un temps frais et éveillant. Comme la réunion était petite, nous y fixâmes une autre réunion le sixième jour, à laquelle vinrent des amis d'Exété et de la campagne, et la présence du Seigneur était avec nous. Je passai en Cornouailles, et eus une réunion très fournie à la maison de Thomas Dibble, et le Seigneur ouvrit mon cœur avec beaucoup d'amour et de tendresse parmi eux. Le second jour, je visitai quelques amis à Liscar, et vins ainsi chez Thomas Mounds, où le troisième jour nous eûmes une très grande réunion, et la puissance bénie de Dieu était avec nous. Le vieux Thomas se porte très bien, et se réjouissait de notre visite. Le quatrième jour, nous passâmes par Bodenham et visitâmes les prisonniers là. Ils étaient 5 emprisonnés pour la cause de la vérité, la plupart pour non-paiement des dîmes. Ensuite, nous arrivâmes à Ossle, où nous fûmes aimablement reçus chez Thomas Soltraus. Le cinquième jour, nous allâmes chez Love d'Ambly, où nous eûmes une bonne réunion. Nous nous reposâmes, le sixième jour, et le septième jour George Whitehead et Thomas Soltraus allèrent à cheval à Truro, où ils eurent une très bonne réunion utile dans leur nouvelle maison de réunion, se séparant en paix. Je restai chez elle, H, et eus une grande réunion, beaucoup d'étrangers entrèrent et furent touchés, et la présence céleste de Dieu nous accompagna. La pauvre vieille Loveday en fut même submergée, et réjouie dans son cœur de voir sa maison, qu'elle avait récemment agrandie si remplie, elle a du zèle pour Dieu et aime la prospérité de la vérité. Le septième jour, nous passâmes à cheval par Totnes et arrivâmes à Kingsbridge et logeâmes chez l'honnête William Kingston. Le premier jour, nous eûmes une bonne réunion à leur maison de réunion près de Kingsbridge, plusieurs étrangers y étaient, et nous eûmes une réunion bénie. Le troisième jour, nous arrivâmes à Plymouth, et le quatrième jour nous eûmes une grande et bénie réunion dans le nouveau lieu de réunion des amis, qui est grand et très commode, et les gens de cette ville ont l'oreille ouverte à la vérité. Nous restâmes le cinquième jour, et le sixième jour nous eûmes une autre réunion céleste et bénie. Et voyant une telle ouverture, les amis nous pressèrent instamment de rester pour une réunion du premier jour. Ainsi George Whitehead, trouvant une liberté de la part du Seigneur, resta le premier jour, et nous eûmes une réunion très grande et précieuse, avec une autre réunion de quelques amis le soir. Tôt le second jour, je retrouvai George Whitehead à Truro, et ce soir-là nous arrivâmes à Marazion, où le troisième jour nous eûmes une réunion très douce et céleste, quoique pas très grande. Après la réunion, nous allâmes à cheval chez Joe. Ellie, où le quatrième jour nous eûmes une réunion puissante, beaucoup de professeurs éminents y étaient, et reconnurent la vérité, et les amis furent rafraîchis et consolés par notre visite. Après la réunion, nous allâmes chez le capitaine Whedon, près de Penzance, qui nous reçut très affectueusement. Le cinquième jour, nous voyagâmes jusqu'à Falmouth, où ce soir-là nous eûmes une réunion chez John Scantlebury. Le sixième jour, nous eûmes une réunion à la maison de réunion à la campagne près de Perrin, et la présence du Seigneur couronna notre assemblée. Après la réunion, nous arrivâmes à Truro, et logeâmes chez Edward Hinks, un ancien disciple et fidèle serviteur de Dieu. Le septième jour, nous allâmes à Penzance et passâmes chez Thomas Lowe, ses serviteurs l'y avaient longtemps attendu. Ensuite, nous revînmes chez Love d'Ambly, où le premier jour nous eûmes une réunion très grande, bénie et céleste. La maison ne pouvait contenir les gens, et plusieurs restèrent dehors, et la puissance du Seigneur se manifesta, la vertu en sortant. En temps voulu, nous espérons que l'effet se montrera. Les assemblées des prêtres étaient clairsemées, et certains dirent que si nous restions quelque temps, ils pensaient que nous aurions convaincu la plupart des gens de deux paroisses. Nous nous reposâmes le second jour, parce que George Whitehead s'était foulé le pied. Le troisième jour, nous traversâmes le pays jusqu'à la mer du Nord, à Panvaux, une ferme appartenant à Laurence Groudon, où nous logeâmes, L.G., étant avec nous. Le quatrième jour, nous passâmes par Patste, traversâmes la rivière, et arrivâmes à une réunion à Mainvée, où nous eûmes un bon service pour le Seigneur. Après la réunion, je vins chez un frère Lowe, où je fus reçu avec grande bonté et affection, mais personne de la famille ne vint à la réunion, sauf le pauvre et honnête John Bray. Le matin du cinquième jour, je passai chez John Billing et lui parlai, à lui et à sa femme, tous deux reconnurent la vérité, mais le chemin est trop étroit pour eux pour y marcher. Je retrouvai George Whitehead à Camelford, où il venait de chez Abraham Rowe, et ainsi nous partîmes pour Launceston. Nous eûmes une journée très pluvieuse et prîmes froid. En ce coton voyagea avec nous à travers la Cornouaille. Ce soir-là, nous eûmes une réunion fraîche mais petite chez Joe, Kerton. Il y a quelques personnes dans cette ville qui maintiennent le témoignage de la vérité. Tôt le sixième jour, nous quittâmes Launceston et allâmes à Wacampton puis à North Taunton, où nous eûmes une réunion très fraîche et ouverte. Beaucoup d'habitants de la ville entrèrent, furent très touchés et reconnurent la vérité. Le sixième jour, nous arrivâmes à Exeter et visitâmes John Poulton et le reste des prisonniers. Puis nous arrivâmes à Colimpton, où, le premier jour, nous eûmes une grande et précieuse réunion. Le second jour, nous arrivâmes à Taunton, et le troisième jour, nous eûmes une grande réunion chez John Holloway. Le quatrième jour, nous traversâmes le pays et arrivâmes à Char, où nous eûmes quelques services le soir. Le cinquième jour, nous eûmes une réunion à Ilminster, et le sixième jour à Crooken, et la puissance et la présence bénie de Dieu étaient avec nous. Après la réunion, nous arrivâmes à Elchester, et le septième jour, nous eûmes de bonnes occasions avec les prisonniers le matin dans le quartier, où quatre ou cinq sont sous le coup d'une exécution, et l'après-midi aux Friars où John Anderton est prisonnier, avec plusieurs autres honnêtes amis. Ce soir-là, nous arrivâmes à Pudimore, où le premier jour, nous eûmes une réunion grande, bénie et céleste, il y avait des amis de plus de 20 réunions, selon l'estimation de certains. Le second jour, nous arrivâmes à Shapton Mallet, et le troisième jour, nous eûmes une réunion fraîche et bonne chez Abraham Clotier. Le quatrième jour, nous arrivâmes à Rollotrow, et eûmes une réunion dans leur lieu de réunion. Nous logeâmes chez John Dando. Le cinquième jour, nous arrivâmes à Keynsham et eûmes une réunion céleste où nous rencontrâmes plusieurs amis de Bristol. Ce soir-là, nous arrivâmes à Bristol et logeâmes chez Thomas Jordan, qui habite dans l'ancienne maison de Den. Le sixième jour, nous eûmes une réunion au Friar et le Seigneur était avec nous, aussi le premier jour au matin à Temple Street et l'après-midi à la nouvelle réunion au Friar. Il y a une grande population dans cette ville, et c'est grand dommage qu'aucun mal ne leur advienne. Nous avons travaillé en toute fidélité parmi eux, et le Seigneur était avec nous, et là où nous rencontrions une opposition, nous la repoussions au nom du Seigneur. Nous eûmes une bonne réunion le soir à notre logis. Le second jour, nous visitâmes plusieurs amis, et l'après-midi nous fûmes à la réunion des femmes, qui était un peu plus grande que d'habitude parce que nous y étions. Le troisième jour, nous eûmes une bonne réunion parmi les amis, dans la grande maison de réunion. Le quatrième jour à Franchet, et le cinquième jour à Olveston, pour le grand rafraîchissement et la satisfaction des amis et d'autres. Nous logeâmes chez William Roger, quoique très serré, mais nous tînmes bon dans la domination de la vérité. John Story vint du Wiltshire, et George Whitehead eut beaucoup d'entretiens avec lui, et William Roger sur bien des choses trop longues à mentionner dans ce bref récit. Le soir, William Roger fut modéré, et John Story élevé et rude, mais le matin, John Story astérisque était très calme, et William Roger était dans une tempête, non contre moi mais contre George Whitehead. Nous avons déchargé nos consciences envers eux deux et les avons laissés. Ce jour-là étant le sixième jour, nous revînmes à Bristol et eûmes une bonne réunion au Friar. Le septième jour, nous rendîmes visite à plusieurs qui ont laissé entrer un levain aigre à leur dommage. Nous avons déchargé nos consciences et les avons laissés. Le premier jour, nous fûmes aux deux réunions, et la puissance bénie et la domination céleste de Dieu étaient avec nous. Nous arrivâmes à Aylesbury, mais trouvant peu d'amis dans la ville, nous allâmes chez Isaac Pennington à une réunion chez Thomas Lowe, où un mariage eut lieu dans la réunion, et la présence du Seigneur était au milieu de nous. Je puis dire en vérité que j'ai rarement assisté à un tel mariage, avec davantage de la présence de Dieu à mon souvenir, à Dieu seul soit la gloire. Le sixième jour, étant le 14 du neuvième mois, Nous arrivâmes à Londres, où nous trouvâmes nos femmes et nos familles en bonne santé, pourquoi nos âmes magnifient et bénissent le nom de Dieu. Ainsi, cher Georges, je t'ai donné un bref compte-rendu de nos voyages dans ce trajet. En cette ville, les choses vont bien, et nos réunions sont pleines et tranquilles. Beaucoup seraient heureux d'entendre parler de ton mouvement en ce sens, ce qui démentirait et confondrait de mauvais esprits qui ont prophétisé ta chute, et ce serait une grande consolation pour les cœurs droits. George Whitehead et plusieurs frères te saluent très affectueusement et tendrement. Ainsi, avec mon cher amour et celui de ma femme pour toi, et pour tous ceux de ta maison, je demeure tien dans l'amour immuable de la vérité. Alexandre Pocquepé, je te prie de transmettre mon cher amour à Thomas Lowe et à tous. Adressé à Sarah Fell, à Swarthmore, remettre ceci avec soin pour George Fox. D'après l'original, asterisque John Story était un dirigeant de la séparation Wilkinson Story, un groupe d'issites de Quakers, qui pensait qu'il ne devait y avoir aucune discipline des membres pour s'être écartés de la vérité. Ils estimaient que l'Assemblée ne devait pas avoir le pouvoir de les censurer, ni de leur refuser le maintien de l'appartenance faute de se repentir de leurs mauvais comportements, lesquels ignoraient les commandements de Christ et de Paul. John Anderton, comme J. Whiting l'écrit, demeura ici prisonnier jusqu'à sa mort. C'était un homme estimé, un bon érudit et scribe instruit pour le royaume, tirant du trésor des choses nouvelles et anciennes. Il était très versé dans les langues, surtout le grec et le latin, et il comprenait le droit, de sorte que beaucoup venaient lui demander conseil, et il le donnait librement. Il rendit de bons services au Seigneur dans les réunions, non seulement en prison, mais aussi ailleurs au dehors. Il résidait au couvent des frères, où beaucoup d'amis étaient prisonniers. Il mourut le 20 du premier mois 1685, achevant sa course vers la 60e année de son âge, posant la tête en paix, un peu avant que les troubles n'éclatent dans l'Ouest. Mémoire de Whiting, p. 278, No. Suelikes I. I. Robert Barclay à Sarah Fell, qui deviendra Sarah Mead, Uri, 27 du 8e mois, 10e mois 1678. Cher Sarah Fell, il y a quelques jours, j'ai reçu vos deux lettres par William Taylor. Je vous renvoie cette réponse, principalement pour tenter un moyen. Savoir si des lettres déposées à la poste d'Édimbourg vous parviendront en toute sûreté, c'est pourquoi je la fais passer par cette voie, et si elle arrive, faites-moi tenir, par la première poste, une réponse, en l'adressant pour qu'elle me soit laissée chez David Falcone, marchand à Édimbourg. Je ne m'étendrai pas davantage, étant incertain de sa transmission en sûreté. Je suis prisonnier depuis que j'ai quitté votre sœur, mais je n'ai été détenu que deux nuits. Patrick Livingstone est sorti puis a été repris. George Keys asterisque et Thomas Mercer ont été arrêtés aujourd'hui il y a une semaine. De Hollande, j'ai reçu hier soir une lettre qui m'a donné beaucoup de satisfaction, dans laquelle en était jointe une de Reuden, d'Anna Van Horn à Lille. Skene très affectueuse, et un court post-scriptum d'Elizabeth la princesse en ces termes. Cher ami, j'aime votre intention droite de peiner en esprit pour vos amis, bien qu'ils vous soient inconnus, et je ne doute pas que cela ne se montre efficace pour eux, au temps convenable du Seigneur, ce qui est le souhait de votre amie affectionnée Elizabeth. Je renvoie d'autres sujets à une prochaine occasion. Tout mon amour à votre père et à votre mère, à Isabelle ma chère compagne de voyage, à Sarah et Rachael, ainsi qu'à votre frère et à votre sœur Leo, avec Leonard Fell et d'autres de ma connaissance. Vous excuserez cette brièveté en ce moment, de la part de votre très affectueux ami Robert Barclay. Astérisque alors, qu'ils étaient étudiants à l'université d'Aberdeen, George Keys était le partenaire de débat de Robert Barclay, défendant avec succès les Quakers. Keys émigra plus tard en Pennsylvanie, où son penchant immature pour la controverse le conduisit à mettre au défi les doctrines Quakers, à renier les ministres Quakers, à se nommer lui-même ministre, et à entraîner les imprudents dans une séparation. Il ne put renoncer à la dispute, portant son affaire en appel à la réunion annuelle de Philadelphie, perdant l'appel, puis faisant appel à Londres pour passer outre Philadelphie, perdant aussi cet appel, tentant de créer une séparation de Quakers en Angleterre comme il l'avait fait en Amérique, et enfin rejoignant le ministère de l'Église d'Angleterre pour retourner en Amérique, évangéliser les Quakers et les ramener dans l'Église d'Angleterre. Sur son lit de mort, il déclara qu'il aurait mieux valu que Dieu l'eût rappelé à lui lorsqu'il était Quaker. Tous les détails de la « qui séparation » sont disponibles à la lecture sur ce site web. Nocy Robert Barclay à George Fox, Édimbourg, le dernier du 10e mois, 12e mois 1679. Cher George Fox, à qui va mon amour cher et sincère dans la vérité immuable, dont avoir des nouvelles mais toujours rafraîchissant. Je sais qu'il vous sera agréable d'apprendre qu'enfin la persécution, longue et pénible, à Aberdeen semble avoir pris fin, car les amis ont tenu leur réunion paisiblement depuis près de deux mois, et le cher Patrick Livingstone, après avoir eu plusieurs réunions paisibles, est maintenant parti de ce lieu en noble conquérant et s'en est allé visiter les amis dans les comtés de l'Ouest, puis entend rentrer chez lui en passant par Newcastle. Je ne doute pas que Dieu ne récompense abondamment son courage et sa patience, car son séjour a été d'un grand service à la vérité et aux amis dans ces régions. Je suis venu ici au vif désir de William Penn et d'autres amis pour parler au duc D'York de l'affaire du New Jersey, mais je crains qu'il n'y ait peu d'effet. Je crains que cela n'ait été compromis dès le début dans la manière de le conduire. Les amis d'ici se portent généralement bien, comme George Keys et sa femme H. P. R. R. et d'autres, et je sais que leur amour va vers vous. Je serais très heureux, si votre liberté vous le permettait, de vous voir dans ce pays au printemps. Je sais que ce serait d'un grand service, car plusieurs choses en auraient besoin, plusieurs choses vont de travers, et c'est le cas maintenant en bien des endroits, et je ne connais la présence d'aucun homme qui puisse y remédier aussi aisément que la vôtre. J'ai eu dernièrement des nouvelles de Hollande, où les amis vont bien, mais les frères du défunt Simon Thomson de Rotterdam s'apprêtent à poursuivre sa veuve pour sa succession, au motif qu'il n'aurait pas été légalement marié avec elle, mais on espère qu'ils n'iront pas jusqu'au bout, et l'on juge que cela aura de grandes conséquences pour les amis à l'avenir, quant à leur mariage. Mon cher et entier amour va à Margaret et à toute la famille, et dans l'amour de la vérité immuable, je demeure. Robert Barclay, d'après une certaine correspondance qui eut lieu en 1683 entre des amis de Hollande et Stephen Crisp, ainsi qu'avec la Morning Meeting de Londres, il apparaît que l'affaire de la veuve était alors indécise, et que des démarches étaient en cours auprès du gouvernement de Hollande, afin de légaliser les mariages des amis, moyennant leur accord à donner avis aux magistrats civils avant le mariage, ainsi qu'après sa célébration. Certains amis de Hollande avaient des scrupules quant à la vie préalable, et l'on demanda le conseil de la Morning Meeting. La réponse fut, en substance, que cela n'était pas incompatible avec le témoignage de la vérité, que de certifier le magistrat tant avant qu'après le mariage, toute chose ayant d'abord passé avec clarté par les réunions des amis, que si la même chose était proposée ici, ce qui exempterait et mettrait les mariages des amis à l'abri des lois pénales, les amis croient que cela serait généralement accepté par les amis. Nous avons été disposés dès le commencement, écrit G. Whitehead à cette occasion, à ce que nos mariages soient portés à la connaissance des magistrats et publiés aux croix de marché, etc., comme le dit George Fox. La Morning Meeting ajoute encore, car bien que nous ne puissions reconnaître aux magistrats civils le droit de marier, néanmoins son droit de connaître des délinquants, des violateurs d'alliances, etc., qui ne sont qu'un scandale pour la vérité et pour nous, comme aussi de punir les adultères, etc. Les magistrats étant établis pour être une terreur pour les artisans du mal, et pour punir les malfaiteurs, et pour louer ceux qui font le bien, et pour les défendre dans leurs droits et leurs biens, a toujours été notre témoignage. C'est pourquoi les amis, étant libres de communiquer la simple connaissance de leurs intentions, préféreront attester leur innocence et leur pureté à l'égard de toute violation de contrat, de démarche clandestine, etc., plutôt que de refuser un tel avis, et assurément nous voulons que notre innocence paraisse tant avant le mariage qu'après. Ces remarques sont intéressantes en ce qu'elles s'appliquent à la conduite adoptée par les amis dans ce pays lors du récent changement de nos lois sur le mariage, avant que cette correspondance ne reparaisse. Lettre historique Quakers anciennes suite.